l'aéroport à Québec.
Le 5 à 16 avec DH, Martine et Mal.
Radio Mal. X.
Quitter le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi.
Vendredi, c'est quitter le Québec. Martine nous a déniché un petit Québécois ou un grand Québécois, je sais pas trop sa grandeur.
Ouais, peut-être que c'est un grand Québécois. En tout cas, avec le métier qu'il fait, moi, je peux te considérer. Si tu l'avais entendu, tu dirais que c'est un grand Québécois.
Ouais. Il y a un site Internet, d'ailleurs, notre prochain invité. Normand Deschênes. Bonjour, Monsieur Deschênes.
Bonjour. J'ai oublié votre nom.
Danny. Danny et Martine.
Danny.
Oui.
Bonsoir.
Nous, là, on enregistre l'entrevue, il est 2h, il est 8h en Allemagne, donc il y a 6h de différence, là.
Oui.
Vous avez quitté le Québec depuis combien d'années, M. Deschênes?
J'ai quitté le Québec en 1981 pour aller étudier aux États-Unis, à Chicago.
Pour quelle raison?
Ouf, c'est pas compliqué, Rimouski et Chicago, je crois que Chicago offre beaucoup plus de perspectives pour un musicien que...
C'est vrai que je pense que c'est la ville musicale. Ben, quoi qu'il y a Nashville aussi de plus en plus, là. Mais c'est l'une des bonnes villes, Chicago, au niveau du blues, du jazz et tout ça, là.
Ouais, mais pour moi, j'étais saxophoniste et puis un des meilleurs professeurs de saxophone à l'époque, il vient juste de prendre sa retraite cette année. Il était à Chicago, là, on voulait aller à Chicago. Mais bon, dépendant de la musique qu'on fait, Nashville va être mieux, New York, si on fait du jazz, Chicago pour le blues, bien sûr. Et puis la côte ouest, ben, il y a la musique de films, ces choses-là. Ça dépend ce qu'on fait. Mais les quatre villes que je viens de nommer sont pour la musique sont plus importantes que les autres hein, aux États-Unis.
Bon, quand un Québécois quitte Rimouski pour s'en aller aux États-Unis, est-ce qu'au début, là, quand on arrive à Chicago, je suppose que c'est une ville très impressionnante?
Ouais, ben, c'était pas très vieux. 7 millions d'habitants avec, comparé à Rimouski, 50 000. Oui, c'était assez impressionnant, oui.
Et de quelle façon on fait sa place à Chicago? Vous avez quand même été là, je pense, 6 ans.
Non, j'ai été 3 ans. J'ai transféré du conservatoire de Rimouski à Northwestern University. J'ai fait mon bac après 2 ans parce que j'avais déjà commencé au conservatoire. Et puis après, j'ai fait ma maîtrise en 84. Puis après ça, je suis parti pour l'Europe. Je suis allé étudier à Bâle. J'ai fait une autre maîtrise de 84 à 86. Et puis après ça, je suis allé à Würzburg. Würzburg, c'est en Allemagne, c'est dans le sud. En Bavière. C'est dans une région qui s'appelle la Franconie. Ça appartient à la Bavière. Quoique les Bavarois ne considèrent pas ça comme la Bavière, mais c'était une ville de 150 000 de population avec une très grosse université. On m'a offert un chargé de cours au conservatoire supérieur en 1986 et puis je suis resté là jusqu'en 2002.
Je suppose que vous avez très jeune, vous aviez le goût d'aventure parce que au nombre de pays que vous avez fait, vous êtes parti depuis un sacré bout de temps. Vous semblez pas être un homme qui s'est accroché d'un fleur du tapis. Là, vous êtes un grand débrouillard. Là.
Non, j'avais le goût de l'aventure. Vous avez choisi les bons mots. J'avais le goût de l'aventure. Je l'ai toujours eu et je l'ai encore d'ailleurs. J'aime bien voyager. J'aime bien voir d'autres pays. Et puis, je vais en vacances aussi souvent que possible. Oui, bon, c'est ce qui m'a poussé à partir. C'est le goût de l'aventure.
Mais en même temps, il y avait une passion qui vous animait avec la musique. Là, ça, c'est pas à dénigrer.
Non, c'est la passion qui me motivait, bien sûr, c'était de devenir musicien et puis d'en voir le plus possible. Je ne vais pas regretter ce que j'ai fait à date, j'en ai vu beaucoup.
Quelles sont les différences entre les États-Unis comme Chicago versus l'Allemagne? Quand on arrive là, l'adaptation, la façon de vivre, quelles sont les différences là?
Oh, entre les États-Unis et puis l'Allemagne, il y avait la Suisse, c'est ça. C'est bon, c'est comme partir de matelas très confortable et tomber sur le ciment parce que les Suisses, ils sont un peu... bon, ils sont très gentils, ils sont très organisés, mais ils sont d'humeur assez égale. Alors, les Américains, ils sont très extrovertis, très exubérants. Et puis à partir de Chicago et s'en aller à Bâle, c'était un très, très... un très gros choc culturel. Et puis repartir de Bâle après 2 ans pour aller à Würzburg, c'était un peu mieux. Mais les Américains et les Suisses, c'est très contrastant comme mentalité. Ouais.
Et en Allemagne, là, vous êtes là depuis un bout de temps?
en Allemagne, je suis depuis 86. Ça fait 28 ans. Oui. C'est les Allemands, ça dépend où on est. Les Allemands du Sud sont un peu plus drôles. Les Bavarois sont... Moi, j'aime bien les Bavarois. La province où je suis, c'est tout près de la Bavière, où je vis, c'est à 20 km des frontières de la Bavière. Les Allemands du Sud sont un peu plus chaleureux que les Allemands du Nord. Je suis bien content d'être ici. Mais c'est une mentalité quand même plus conservateur que les États-Unis.
Et est-ce que ce sont des gens qui sont accueillants? Est-ce que ce sont des gens qui vont vous inviter naturellement chez eux? Est-ce qu'ils vont tout faire pour que vous soyez à l'aise dès que vous arrivez? Ou vous avez à vous débattre un peu pour faire votre place?
On parle d'Allemagne et non plus de la Suisse.
Oui.
Les Allemands du Sud, quand je suis arrivé à Würzburg, c'est une ville avec une très grosse université, alors on est habitué de voir qui est presque internationale. Les gens sont plutôt accueillants. Il faut dire que quand on est Canadien, pour les Allemands et les Suisses aussi, mais surtout pour les Allemands, le Canada est un pays de rêve. Bon, ils ont une conception un peu idyllique du Canada, mais ça nous rend intéressants, ça les rend curieux. Ils aiment nous parler, ils veulent en savoir plus sur le Canada. Et puis, ils sont très, très accueillants sur ce point de vue-là. J'ai pas eu de problème quand je suis arrivé à Würzburg à me faire des amis, à faire des connaissances, peu importe où j'allais. Et c'est encore comme ça, d'ailleurs.
Ouais. Est-ce que les gens font une différence entre le Canada versus le Québec? Ou pour eux, le Québec, bon, c'est une province parmi tant d'autres?
Non, ils savent, il y en a beaucoup, bon, ceux qui sont instruits un peu, ils savent que le Québec, on parle français au Québec, ou la majorité francophone. Il y a beaucoup d'Allemands qui savent pas que le Québec, c'est francophone. Ils savent qu'il y a un coin du Canada où ça parle français, mais ils savent pas que c'est le Québec. Il y en a beaucoup qui le savent, il y en a beaucoup qui le savent pas. Ça m'étonne encore aujourd'hui.
Et est-ce qu'on jase un peu du projet du Québec là pour 30-40% de Québécois, là, la séparation? Est-ce que c'est du fait du nombrilisme ou à l'extérieur, personne n'est au courant de ça? Là?
Ah ouais, on est au courant et puis quand on en parle, je me rappelle la dernière campagne référendaire qui a passé, ça a été 51 contre et 49 pour, je crois. Bon, on en parle aux nouvelles et puis bon, pour si vous voulez que je réponde franchement à votre question, pour les Européens ou les Allemands, de toute façon, on est les Québécois séparatistes et les troubles faits de la Confédération canadienne, si vous voulez. Okay.
Non, mais c'est ça que je veux, la vérité.
Vous voyez ici en Europe, on est 28 pays entre-temps qui se sont unis. Et puis les Allemands vont en Italie parce qu'ils aiment les Italiens viennent en Allemagne parce qu'ils aiment les Allemands, moi je suis allé en Espagne parce que j'aime bien l'Espagne. Les gens se visitent parce qu'ils s'aiment, alors que les Québécois séparatistes ne sont pas capables d'entendre avec une coupe d'anglais. C'est la mentalité, c'est comme ça qu'on voit le Québec séparatiste. On n'est pas encore séparés, mais c'est la façon qu'on voit le Québec en ce moment, ici en Europe. C'est ce que j'ai pu constater depuis 28 ans, en tout cas.
Là, ce que je comprends, vous vivez bien de votre métier, là. Ce que ce serait peut-être impossible à faire, à moins d'être un enseignant à Rimouski ou à quelque part d'un conservatoire ici au Québec, là, vous vivez bien de votre métier, là.
J'ai toujours vécu assez bien de mon métier, mais ce qu'il m'a plu le plus, c'est que j'ai vécu d'une façon diversifiée de mon métier. J'ai pu enseigner dans une université, j'ai enseigné dans des écoles, ce que je fais encore d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de théâtre, ce qui serait pratiquement impossible aux États-Unis ou au Canada. J'ai fait 74 productions différentes de musicals, des opérettes dans plusieurs théâtres dans le sud de l'Allemagne. J'ai fait 1500 représentations de théâtre entre 1987 et 2004. Alors puis j'enseignais, je jouais, j'ai fait de la musique de chambre. Là, je dirige des harmonies, puis j'enseigne la clarinette, la flûte traversière, le saxophone. Mais je fais toujours toutes sortes de choses. La semaine dernière, on m'a demandé si je pouvais faire la musique pour un vernissage dans je cherche mes mots, là.
Mm-hmm. Hey, monsieur...
Exposition là, dans un musée. Je fais toutes sortes de choses. C'est presque pas possible de vivre d'une façon aussi diversifiée du métier de musicien au Québec. Aux États-Unis.
Monsieur Deschamps, vous savez pas comment je suis heureuse qu'on vous parle. Parce que cette semaine, mon animateur...
Je te vois venir, Martine.
Oui, écoute, quand j'ai une porte qui s'ouvre, je fonce.
Tu l'appelles.
Alors, Monsieur Deschamps, mon animateur cette semaine, bon, a eu la mauvaise nouvelle de son fils, là. Il avait perdu sa flûte à bec. Puis le lendemain, il avait son examen. Puis là, Danny, ici présent, disait, ben, à quoi ça sert, la flûte à bec? C'est d'une perte de temps. Les jeunes n'aiment pas ça. Puis moi, je m'obstinais avec lui. Puis je me dis, ben, voyons, c'est comme un avant-goût de la musique. Je me dis qu'on a des virtuoses de musique. Là, je faisais référence à Metallica parce qu'ici, à la station, on écoute beaucoup ce genre de musique, puis des légendes du rock aussi. Mais je disais, ben voyons, j'ai dit, les musiciens, ils ont commencé par la flûte à bec, puis c'est ce qui leur a peut-être donné le goût de jouer de la musique. Alors, on a un professeur au bout de la ligne qui pourrait expliquer à mon animateur, c'est quoi l'utilité de faire la flûte à bec quand les jeunes...
Pourquoi s'obstiner à faire de la flûte à bec au lieu de la guitare, mettons, là, qui est beaucoup plus populaire, puis qui est beaucoup plus internationale? En fait, la flûte à bec peut-être aussi, là, mais me semble l'utilité est plus grande avec les guitares.
Bon, la flûte à bec, moi je connais pas un instrumentiste avant, que ce soit un trompettiste, un tromboniste, un clarinettiste, un oboïste, flûtiste, saxophone, peu importe l'instrument avant, j'en connais pas qui ont pas commencé avec les flûtes à bec. La flûte à bec, c'est un instrument qui est petit et qui est assez petit pour qu'on mette des petites mains d'enfants de 5 ou 6 ans dessus, et ça fonctionne. C'est pour ça qu'on fait tous la flûte à bec, avant d'avoir les mains assez grandes pour jouer de la clarinette, du saxophone, de la flûte traversière. Bien qu'aujourd'hui, on fait des instruments, des flûtes traversières, des clarinettes plus petites pour les enfants. Mais ces instruments-là sont quand même trop gros pour des enfants de 6 ans qui veulent apprendre un instrument avant.
Donc, on leur apprend les rudiments de la musique avec un instrument qui est plus adapté à eux. C'est un peu ça, le rôle. Mais je veux pas...
C'est un bec, c'est ça.
Oui, bon.
Non, c'était juste pour taquiner Dani, parce qu'on a eu une prise de bec là-dessus. Puis je me suis dit, tant qu'à avoir un virtuose de musique, on va en profiter.
Ben oui, c'est bon. Vous savez, ici... On parle beaucoup d'économie, là. Il y a eu... En passant, est-ce que vous avez suivi la campagne électorale au Québec, même si vous êtes en Allemagne?
La dernière, non. Faut dire que j'ai pas eu contact beaucoup avec mes deux frères qui vivent à Québec depuis quelques mois d'ailleurs. Et quand on se parle, on sait pas parler des élections. Ils étaient quand c'était les élections?
Non, ça vient de passer, là. Ça a été.
Ça fait peut-être 2 semaines là, que le vote est passé.
Les libéraux sont de retour au pouvoir, là.
Ah bon?
Après un petit 18 mois où le Parti québécois avait pris la pôle. Mais l'économie a été durement frappée en Europe. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi en France? En Allemagne, c'est-à-dire?
En Allemagne. En 2008, vous, on s'en rendait compte, oui, mais moi, je vis dans un coin de l'Allemagne où l'industrie marche très bien, surtout la région où je suis. On s'en est rendu compte, mais bon, ça repartit en remontant avant que ça soit avant que ça fasse vraiment mal. 2008-2009, si vous parlez de cette période-là, oui, on s'est rendu compte, mais les Allemands, ils sont travailleurs. Ils s'arrangent pour que leur business tourne bien.
Oui, puis il y a des belles marques d'auto, là, Audi, Volkswagen, BMW. Ben, je dois en oublier.
Mais
là.
c'est ce qu'on connaît d'eux, mais ben il y a autre chose là, aussi.
Oui, il y a des Volvo comme la mienne d'ailleurs.
et je pense qu'on est très fiers de nos véhicules en Allemagne.
Ouais, un peu trop. Ça fait des différences de prix qui sont trop grandes à mon goût. C'est pour ça que j'ai une Volvo d'ailleurs.
Ah oui, c'est très élevé le prix des automobiles en Allemagne?
Oui, ben c'est pas très élevé. C'est que si on les achète de première main, par exemple, ce que j'ai l'habitude de faire, au des démonstrateurs, les voitures allemandes, vous les avez nommées Audi, BMW, Mercedes, ils sont toujours beaucoup plus chers qu'une Volvo, par exemple. Ouais. J'aime bien les Volvo, là, je suis un amateur de Volvo. Ils sont beaucoup plus chers dans cette catégorie-là que les voitures allemandes, que les voitures qui sont pas allemandes.
Ouais. Monsieur Deschaines, si moi je quitte là, demain matin, je vais passer un mois en Allemagne. Qu'est-ce qui va me sauter aux yeux dans les 30 premiers jours?
Ça dépend où vous allez.
Ouais.
Le sud et le nord, c'est pas pareil.
Ouais.
C'est deux mentalités absolument différentes. Et puis bon, il y a un petit coin dans le milieu aussi qui a une mentalité propre à... Je parle de Cologne, là. Ouais. Et puis...
Et vous avez vécu Le mur, ça fait combien d'années, là?
Ça fait longtemps. Ça fait... Oui.
Le mur, ça fait longtemps, mais je l'ai vécu très bien parce que je travaillais dans un théâtre.
Ah, vous l'avez vécu?
Oui, c'était à la dernière ville avant la frontière de République démocratique allemande. Et puis, on a été envahis par sa traversée. Il y avait des embouteillages incroyables. Il fallait partir 6 heures à l'avance pour aller jouer au théâtre, pour arriver en temps. C'était... Oh.
Est-ce qu'on le rappelle à chaque année? Est-ce qu'on souligne l'anniversaire à chaque année de cet événement?
La chute du mur de Berlin.
Ouais, hein? Ça a été tout un événement, ça. Oui.
Ben oui, c'est le 3 octobre maintenant. C'est la fête nationale de l'Allemagne unifiée. C'est le 3 octobre pour commémorer la chute du mur.
Hey, parlez-nous un peu des conditions météorologiques en Allemagne où vous êtes dans le sud. Ça ressemble à quoi? Avez-vous un hiver?
On a un hiver. Cet hiver, on n'a pas eu, par exemple. Moi, j'ai rien contre. Et surtout quand j'entends les températures que vous avez eues encore la semaine dernière, il faisait moins 20, moins 16 à Rimouski. On a eu un hiver doux, mais habituellement, dans la région où je vis, on a 4 saisons.
Okay.
Un hiver avec de la neige de fin novembre à fin février. On a un printemps qui est déjà un printemps à mi-mars. Et puis, on a un été. Alors, on a vraiment quatre saisons très diversifiées. Ça fait... Moi, je m'ennuie pas du Québec pour ce qui est de la température.
Mais qu'est-ce qui vous manque du Québec?
Pas grand-chose. À part mes deux frères, ma mère, la famille un peu, mais là, avec le téléphone, Internet...
Skype et compagnie, là, il y a moyen de...
Ça coûte moins cher de téléphoner. Il y a Skype... Il y a toutes sortes de choses. Alors, le contact est là. Mais
le matin, quand vous vous réveillez, là, M. Deschênes, le matin, quand vous vous réveillez, vous vous sentez comme un Allemand, comme un Québécois?
Je suis devenu, tout le monde le dit, je parle encore l'allemand avec un... Mon accent n'est pas français, d'ailleurs, mais avec un léger accent, on entend ça. Mais je me sens plus allemand que québécois. Bien qu'il y a un proverbe allemand qui dit vous pouvez sortir le paysan du village, mais vous sortirez jamais le village du paysan. Ça veut dire que vous m'écoutez parler, là, je parle encore avec l'accent québécois. J'ai pas peur, si on perd pas ça.
Pourquoi vous ne perdez pas? Parce que je suppose que votre conjointe est allemande.
Ma conjointe est allemande, elle parle italien, très bien anglais aussi, mais on parle allemand. On est en Allemagne, on parle allemand. J'ai un de mes meilleurs amis qui est canadien, il vit à Würzburg. Ben, lui, canadien-anglais, on parle juste anglais. J'ai des amis allemands qui ont vécu aux États-Unis, alors on parle anglais pour le pratiquer, enfin. Mais le français, je le parle une fois par mois, 15 minutes, une demi-heure, quand mon père m'appelle, quand mes frères m'appellent, quand ma mère m'appelle.
Ben, félicitations, parce que vous avez quand même un bon Québécois, un bon français encore.
Mais oui.
Je vous admets que je suis encore très nerveux parce que il y a tellement longtemps que je n'ai pas parlé français. J'avais peur de chercher mes mots. Je ne les ai pas cherchés trop, mais... C'est pas évident. Parler français maintenant, là, ça demande un peu plus de concentration que parler l'anglais ou parler l'allemand.
Ouais. Un anglais qui veut apprendre le français versus l'allemand, est-ce que c'est plus compliqué la base allemande ou Québec ou française?
J'ai mal compris votre question. Vous pouvez répéter?
Est-ce que c'est plus facile à apprendre l'allemand ou le français?
L'allemand est une langue qui est totalement structurée. C'est plus facile dans un sens d'apprendre l'allemand parce qu'on va arriver à le parler parfaitement parce qu'elle est complètement structurée, sans exception, alors que le français a 7-8 exceptions pour toutes les règles.
Oui, oui. Mmh.
Alors, on va arriver à parler le français beaucoup plus couramment, beaucoup plus vite que l'allemand, mais si on est étranger, moi, je suis bien content d'avoir appris le français comme langue maternelle. Mais si vous apprenez l'allemand, vous allez finir par parler parfaitement. Ça va prendre plus longtemps que le français pour le parler couramment. Mais les structures sont là. Si vous les apprenez correctement, vous allez apprendre l'allemand parfaitement. Le français, il y a tellement d'exceptions. Bon, on me le dit, tous ceux qui appellent, qui sont allemands ou qui sont anglais, qui ont appris le français, il y a tellement d'exceptions. Normalement, on ne sait plus.
Ça a été un plaisir, M. Deschênes, de vous jaser en direct de l'Allemagne.
Joli.
Merci bien.
Oui, bon, c'est moi qui vous remercie pour votre
internet. Vous avez un site internet, si les gens veulent aller le visiter au juste, et quelle est l'adresse?
Deschênes.de, DESCHENES.de, et je suis sur Facebook aussi. beaucoup plus que sur mon site internet.
Ben, bonne fin de semaine en Allemagne.
Merci beaucoup, Danny.
Okay. Merci.
Merci beaucoup.
Bye bye.
Bye bye.
Bye bye. Normand Deschênes, un Québécois qui a quitté il y a plusieurs années pour Chicago, après ça la Suisse, après ça l'Allemagne, puis aujourd'hui ben il dit qu'il se sent comme un Allemand et non
ben
un Québécois.
Oui. Puis tu sais les mots, c'est drôle qu'il dise ça, que l'allemand c'est plus facile un coup que tu le sais.
Ouais.
Mais il y a des longs là, il y a des mots très longs, t'as de l'anglais et du français dans certains mots. Mais quand même, comme il dit, les variations, il n'y en a pas. Là, un cuisinier, ça va être un je pense, ça va être un chef de cuisine. Ça va être le mot chef de cuisine. C'est aussi simple que ça, mais en allemand, ça va être dit chef de cuisine. Tu vas juste coller chef et cuisine ensemble, puis tu vas comprendre que c'est... En tout cas.
Parce que quand on l'écoute, on dirait que c'est un charabia d'onomatopée de son, là, l'allemand.
Ouais,
En tout cas,
quand je voyageais avec la gang, on apprenait quelques mots en allemand. Puis, tu sais, une grosse bière, s'il vous plaît, eine grosse bière, bitte. Tu sais, c'est pas compliqué.
Non.
Une grosse bière, eine grosse bière, bitte. Bon. Puis là, ben après ça, on apprenait d'autres mots. Travaillant, c'est arbeiten. Mais tu sais, arbeiten, ça ressemble à herbeite.
Ben
tu dis herbeite, tu dis gardons l'herbeite, puis lui, il pense que tu parles de travaillant. C'est le fun parce que t'as des points de repère. C'est pas comme les mots de russe ou d'autres langues où il faut que tu apprennes par cœur le mot parce qu'il n'y a aucun lien à faire. Là.
Ouais.
En tout cas, il était vraiment très intéressant. Tu irais écouter son site. C'est vraiment un très bon musicien, là. Saxophone, il joue des sonates et compagnie, c'est extraordinaire.
Ben, de ce que j'en, maintenant, je me souviens, c'est deux maîtrises qu'il a en musique ou,
ouais, c'est une sommité.
Une sommité, c'est ça, qui a quitté le Québec. Ben, merci, bonne fin de semaine, Marcel.
Merci à toi aussi.
Hey, on sera là lundi. Bye bye.
Yes.
Le 5 à 7 avec DH, Martin et Mal.
Radio X.
La capsule événement, une présentation de Boucher Lortie. Vos factures de chauffage vous ont coûté cher cet hiver? Vous ne voulez pas revivre ça l'an prochain? C'est le bon moment pour convertir votre système de chauffage et épargner. N'attendez pas. Confiez la conversion aux experts de Boucher Lortie. 418-623-2323, on est service.
Capsule. Radio X.
Capsule événement.
Le Monster Spectacular G1 Tour s'amène au Colisée Pepsi. Le 10 mai, il y aura Bounty Hunter, Black Stallion et le nouveau champion Monster Jam. En plus de ça, il y aura l'Overkill Evolution, Mike Vaters Jr., duel père-fils en vue aussi, freestyle de motocross avec backflip et course de VTT pour l'achat de billets. Allez sur billettech.com. Second Skin fête ses 10 ans cette année. Ils sont spécialistes en impression, grossistes en vêtements et objets promotionnels, bref, tout ce qui s'imprime. Ils ont des vêtements personnalisés pour l'entreprise, équipe sportive ou organisme. Ils font de la sérigraphie, broderie, transfert numérique, vinyle ou encore en sublimation, situé au 1996 sur la 1ère avenue près du Colisée. Pour plus d'infos, secondskin.ca. Le Amnesia Rockfest 2014 se tiendra les 20 et 21 juin à Montebello, comme Blink-182, Motley Crue, Weezer, Alice in Chains, Megadeth, Billy Talent, Primus, NoFX, Cypress Hill et j'en passe, ces 150 groupes qui vont défiler. C'est à seulement 60 minutes de Montréal. L'Amnesia Rockfest, c'est le party rock de l'été. Info amnesiarockfest.com. Et finalement, les 15 et 16 juin, ainsi que les 4, 5 et 6 septembre, c'est le spectacle intemporel de Mesmer. Il y a plus de 140 000 billets qui ont été vendus. C'est un retour triomphal d'Europe. Encensé par les critiques, c'est drôlement mystérieux. C'est l'expérience d'une vie à ne pas manquer. Pour plus d'infos, il achète billets, salalbertrousseau.com.
Une maison de rêve flambant neuve dans le prestigieux quartier Silva à Lac-Beauport à partir de seulement 320 000. Pincez-vous pas. C'est vraiment ce que vous propose Construction du Sous-Bois.
Vous avez un budget plus modeste?
Devenez propriétaire d'un jumelé à Charlebourg à partir d'aussi peu que 188 000 $.
Oui, c'est possible avec Construction du Sous-Bois.
Choisissez parmi plus de 500 terrains et profitez de tous les services sous un même toit. Au service de vos rêves depuis 25 ans.